bonjour à tous. À la une de ce 13h, la Finlande dit oui à l'OTAN, le pays voisin de la Russie, demande officiellement son adhésion ce midi à l'Alliance Atlantique malgré les menaces russes. Il est désormais saint, l'ermite Charles de Foucauld, figure du catholicisme français, canonisé ce matin par le pape François. Nous serons à Rome et nous expliquerons cette décision du Vatican avec notre invité Jean-Marie Guénois, spécialiste des religions. Une tuerie raciste hier aux États-Unis, au moins 10 morts. Le meurtrier présumé s'est filmé en direct pendant quelques minutes sur la plateforme Twitch. Dans ce journal également, l'épisode de sécheresse, les retenues d'eau sont-elles la solution? Elles sont très critiquées par les associations de défense de l'environnement, mais plébiscitées par les agriculteurs. Nous serons en Savoie. Direction Le Mans également, les pilotes français Fabio Quartararo et Johan Zarco, stars du Grand Prix de France Moto qui s'élance à 14h. Et puis parole à une grande voix de notre histoire à la fin de ce journal, Robert Hébras, dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Il rencontre ses lecteurs pour la dernière fois ce week-end à Limoges.
France Inter.
Les mises en garde de Vladimir Poutine n'y ont donc rien changé. La Finlande est officiellement candidate à l'adhésion à l'OTAN. Le pays tourne le dos à une longue tradition de neutralité, 75 ans. La Finlande, qui partage 1300 km de frontières avec la Russie, est inquiète pour sa sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors Helsinki veut se placer sous la protection de l'Alliance Atlantique, annonce faite ce matin par Sanna Marin, Première ministre de Finlande.
Nous sommes de proches partenaires de l'OTAN, mais c'est une décision historique que nous rejoignions l'OTAN et nous espérons prendre cette décision simultanément avec la Suède. Nous aurons toujours nos propres capacités nationales de défense qui sont très fortes et nous serons toujours responsables de notre défense. Et je crois qu'il est aussi très important de noter que notre décision et la décision suédoise va influencer et affecter toute la région nordique et baltique. Et ça va renforcer la capacité de tous les pays à se défendre.
Sanna Marin, première ministre de Finlande, annonce faite il y a quelques minutes. Selon les derniers sondages, les trois quarts des Finlandais sont désormais favorables à cette adhésion, trois fois plus qu'avant la guerre en Ukraine. Cette annonce a été saluée immédiatement sur France Inter, c'était il y a quelques minutes, par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.
C'est un jour historique, c'est tellement vrai que je suis également commissaire en charge, vous savez, des industries de défense. C'est la première fois qu'un commissaire est chargé précisément cet aspect de défense dans nos institutions européennes. Donc j'étais moi-même à Helsinki vendredi, et je suis rentré du reste hier, précisément parce que c'est un jour historique et parce que ça va vouloir dire beaucoup de choses pour notre défense.
Thierry Breton, invité de Questions politiques sur France Inter. La Suède et la première ministre de Finlande, Sanna Marin, en parlait à l'instant. La Suède envisage elle aussi une demande d'adhésion à l'OTAN. Le parti au pouvoir en Suède tient à ce sujet aujourd'hui une réunion décisive. L'adhésion de ces deux pays, Finlande et Suède, à l'OTAN est au menu des discussions des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance qui sont réunis aujourd'hui à Berlin. Des diplomates qui ont également suivi le concours de l'Eurovision hier soir, concours de la chanson remporté par l'Ukraine, un succès qui, selon le secrétaire général délégué de l'OTAN, illustre, je cite, l'immense soutien du public dans toute l'Europe. La situation en Ukraine, qui sera évoquée aujourd'hui par Emmanuel Macron, le chef de l'État, est aux Émirats Arabes Unis pour un hommage à l'ancien président décédé vendredi, mais aussi un entretien avec son successeur, son frère qui a été désigné hier. Preuve de l'importance des Émirats Arabes Unis, le Premier ministre britannique Boris Johnson fait lui aussi le déplacement aujourd'hui, tout comme demain la vice-présidente américaine Kamala Harris. Emmanuel Macron hors de France, Jean Castex est resté à Paris. C'est donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a assisté ce matin à Rome à la cérémonie de canonisation de Charles de Foucauld, un homme dont la vie a débuté dans l'excès et la débauche et qui s'est achevée dans le dépouillement et l'amour de Dieu. L'officier libertin devenu explorateur puis prêtre a été proclamé saint par le pape François comme 9 autres figures de l'Église catholique, dont 2 Français. En 1916, en pleine Grande Guerre, sa mort à Tamanrasset, dans le Sahara algérien, où il s'était retiré au milieu des Touaregs, sa mort était passée inaperçue. Au contraire, ce matin, sa canonisation s'est déroulée devant une foule nombreuse. Reportage à Rome, Bruce de Galzin.
La célébration a débuté avec la litanie des saints, puis François a immédiatement procédé à la canonisation.
Carolum de Foucault, Mariam Rivier, in nomine Patris
Charles de Foucault, un modèle pour les militaires notamment. Il a fait Saint-Cyr, comme Thomas Mial, lieutenant-colonel à la Légion étrangère à Castelnaudary.
Il est entier, il se donne à fond dans ce qu'il fait avec une passion débordante. Alors au début de sa vie, les passions qui l'animent, c'est le jeu, c'est le plaisir. Et puis au moment où il est touché par la grâce, il se donne complètement à fond dans cette nouvelle passion qui est Dieu. Et c'est ça qui est admirable à mon avis pour un Saint-Cyrien et pour un officier quel qu'il soit. Ouais.
Le nouveau saint était un homme de dialogue. C'est ce qui compte pour Alix, qui travaille pour l'œuvre d'Orient et le dialogue interreligieux. Elle était là dès 6h30 ce matin avec une mission.
On s'est lancé le défi aussi de coller un sticker pour la journée des chrétiens d'Orient sur la papa mobile. Donc il fallait être le plus proche possible, si vous voulez. Non, mais parce qu'aussi, il faut être proche du pape. C'est une occasion une fois dans une vie, parfois. Donc il faut être le plus proche possible pour être le plus en communion possible, je pense.
Mission impossible, mais Alix a pu voir le pape de très près. Sur la place Saint-Pierre au Vatican, Bruce de Galzin, France Inter.
En ligne avec nous, Jean-Marie Guénois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Vatican, rédacteur en chef au Figaro chargé des religions. Vous avez assisté à cette cérémonie ce matin. Jean-Marie Guénois, quel message a souhaité envoyer le pape François en canonisant Charles de Foucault ?
Il y a d'abord un message sur ce qu'on appelle la sainteté dans l'Église. Il a dit que c'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose du quotidien. Et c'est en fait un peu tout son pontificat, c'est de montrer aux chrétiens et aux catholiques en l'occurrence que la sainteté, c'est pas seulement prier, mais c'est aussi aider les autres au quotidien, s'intéresser à ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient. Et c'est encore une fois ce qu'il a dit dans son homélie.
Certains historiens, Jean-Marie Guénois, ont rappelé dans leurs travaux que Charles de Foucault, ancien officier, je l'ai dit, avait des liens forts en Algérie avec des militaires français chargés de la colonisation à cette époque-là. Est-ce que c'est un aspect de sa vie qui a été envisagé dans ce qu'on appelle le procès, c'est-à-dire l'enquête qui a précédé la canonisation ?
Non seulement ça a été envisagé, mais ça a retardé les travaux de cette commission qui travaille sur les causes de béatification. Parce que quand l'Église réfléchit à ce genre de cas, elle examine les circonstances de la mort. Est-il mort au nom de la foi ? Est-il mort pour des intérêts nationaux ? Et là, il y avait une petite ambiguïté qui a été levée par des analyses historiques assez fouillées, et l'Église a fait rechercher encore. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de doutes, mais tout de même, pour éluder totalement cette question... sur les circonstances de sa mort assez violentes, hein, il a été assassiné, pour bien mettre en évidence qu'il est mort au nom de sa foi, au nom de tout son témoignage chrétien, et non pas pour défendre des intérêts français et Sahara. Et sa façon de coloniser, parce qu'il l'avait connu de très près, c'est un autre élément qui a beaucoup joué. Une fois qu'il a été dans la vie religieuse, il a été totalement donné à la population qui était autour de lui. Il n'a jamais cherché à faire des choses de prosélytisme, des choses extraordinaires. Il a toujours cherché à témoigner, à aider les gens autour de lui. Et c'est ça qui a emporté de toute façon cette adhésion, cette certitude de l'Église. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est vraiment l'Église certaine que cet homme est un saint, donc il est exemplaire, donc elle le propose à la dévotion des fidèles. C'est quand même un procès assez sérieux, beaucoup plus qu'on ne pense, très historique, très fouillé. Il est arrivé à cette conclusion et c'est vrai quand on voit ce qu'on peut voir de lui, des photos, des textes, c'est quelqu'un qui est une vie absolument hors du commun et qui touche par cette extrême sainteté, cette extrême sainte, cette radicalité, cette vie totalement donnée à Dieu et aux autres.
Jean-Marie Guénois, cette canonisation, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur l'état des relations entre la France et le Vatican. Où en est-on alors que ces derniers mois ont été agités avec les révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels de l'Église ? Et puis, autre sujet, la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Où en sont ces relations ?
Alors ici, la France est toujours la fille aînée de l'Église quand même. Voilà, c'est quand même une Église très particulière, mais très turbulente. Elle est turbulente parce qu'elle n'est pas tout à fait dans les clous, même par rapport à d'autres églises, ne serait-ce que l'église italienne ou espagnole. Donc elle intrigue, parfois elle énerve un petit peu. Il y a une forme d'indépendance de l'église de France. Et en même temps, elle apporte beaucoup parce que par rapport à d'autres églises, elle est très créative, même si elle est minoritaire. Donc les relations sont quand même plutôt bonnes, sont un peu tendues sur les questions des traditionnalistes, un peu tendues sur l'histoire de l'archevêque de Paris, qui bon maintenant son successeur est nommé, Cyril Ric. Franchement, il n'y a pas de problème majeur, il y a des petits incidents de parcours, mais qui sont liés au fond à une personnalité française dans l'Église catholique qui n'est jamais bénévolie, qui se laisse pas faire comme certaines autres églises. Et sans être trop chauvin, on peut dire que l'Église de France est une fille aînée très, très particulière et très finalement une personnalité forte dans le concert de toutes ces églises. D'ailleurs, qu'on est bien pour ce matin, c'est très bien de voir des Indiens, des Africains, enfin, c'est de la planète hein, qui est sur le bassin Saint-Pierre. Et il y avait aussi beaucoup de Français et tout ça. C'est un cocktail étonnant qu'on trouve d'ailleurs qu'ici, des gens comme ça qui communient dans une même foi.
Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13h. Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, chargé des religions. Au Liban, c'est un pays en pleine déliquescence qui organise ses élections législatives aujourd'hui, les premières depuis 2019 et le début d'une grave crise économique et sociale. Les Libanais avaient alors dénoncé la corruption de leur classe politique. Pourtant, ces élections ne devraient pas profiter aux groupes d'opposition nés des soulèvements il y a 3 ans. Enjeu Aurélien Colli, le score des partis chrétiens soutenus l'un par l'Iran, l'autre par l'Arabie Saoudite.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Oui, c'est l'affrontement entre les deux grands partis chrétiens sur fond de rivalité régionale, de lutte d'influence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. D'un côté, le courant patriotique libre du président Michel Aoun. Son mandat s'achève en septembre sur un bilan catastrophique. Son parti est en perte de vitesse, il pourrait perdre des députés et surtout la majorité, majorité qu'il tient avec son principal allié, le Hezbollah, soutenu par l'Iran. En face, le rival historique du président Aoun chez les chrétiens, c'est le parti des forces libérales. Libanaise, farouche opposant aussi au Hezbollah, qu'il a même affronté par les armes dans les rues de Beyrouth en octobre dernier. Alors derrière cette bataille entre les deux grands partis chrétiens se joue en partie l'avenir de la majorité au Parlement, le poids du Hezbollah et l'influence surtout de son tuteur, l'Iran. Les forces libanaises sont d'ailleurs soutenues par le grand rival de Téhéran dans la région, l'Arabie Saoudite. L'Arabie qui a aussi activé ses réseaux dans la communauté sunnite du Liban pour éviter que le retrait de son ancien protégé, Saad Hariri, ne se traduise par une abstention massive des sunnites, une abstention qui profiterait au Hezbollah et à l'Iran.
Résultat de ces élections législatives, merci à vous Aurélien Colli, attendu demain. Aux États-Unis, les motivations du tueur de Buffalo dans l'État de New York ne font guère de doute. Ce jeune homme de 18 ans a ouvert le feu hier dans un supermarché tuant 10 personnes, dont une majorité de Noirs américains. Il a été arrêté. La police parle d'un crime à motivation raciale et selon le New York Times, le tireur présumé a diffusé un manifeste sur Internet. Il dit s'être inspiré de crimes commis par des suprémacistes blancs, notamment le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Une tuerie qui soulève de nombreuses questions pour François Durper, historien spécialiste des États-Unis.
Ça pose évidemment la question du racisme. Aux États-Unis, il y a le premier amendement à la Constitution américaine, très différent de la France, où l'expression de propos racistes est protégée, tuée évidemment, et est illégal comme dans tous les pays du monde. En revanche, exprimer des propos racistes, contrairement à la France, où c'est inscrit dans le code pénal, ça c'est autorisé. Et puis là, ça pose peut-être aussi la question des réseaux sociaux.
De la diffusion sur des réseaux sociaux. C'est la première fois, ça, non ?
Ça, c'est tout à fait nouveau. La plateforme Twitch, qui est d'ailleurs un peu au centre de beaucoup de polémiques aux États-Unis,
mais qui a réagi très vite,
et immédiatement communiqué en disant que la vidéo avait été supprimée en 2 minutes et qu'évidemment, il faisait tout pour faire en sorte déjà que cette vidéo soit pas diffuser et surveiller les comptes éventuels qui puissent diffuser cette vidéo. Et puis ça pose toujours cet éternel problème du port d'armes. Voilà. Un homme de 18 ans, surarmé, fusil d'assaut, qui est une arme de guerre, qui n'a sans doute rien à faire dans les rues des États-Unis.
Le spécialiste des États-Unis, François Durper, avec Karine Bécard et Éric Delvaux ce matin sur Inter. Ce ne sont pas les quelques pluies d'orage attendues aujourd'hui en France qui vont régler le problème. L'épisode de sécheresse qui touche de nombreux départements se poursuit avec des mesures de restriction dans une quinzaine d'entre eux. Pour récupérer l'eau de ces précipitations, la stocker puis l'utiliser, les chambres d'agriculture recommandent la création de ce qu'on appelle des retenues d'eau collinaires. Une solution à très court terme, estiment de nombreuses associations de défense de l'environnement. Elles préféraient que cette eau recharge les nappes souterraines. Ce n'est pas le choix qui a été fait en Savoie par l'agglomération de Chambéry. Elle a construit ce type de retenue il y a 3 ans sur la commune de La Motte-Servolex. Reportage Baptiste Madinier.
Nous sommes sur les contreforts de la montagne de l'Épine, au-dessus de Chambéry, devant un bassin un peu plus grand qu'un terrain de foot. Présentation avec François Routin, maraîcher, qui est aussi le président de l'association des irrigants de l'Épine.
La retenue, elle est remplie en période d'abondance au niveau de l'eau, sur la période fin novembre, début mars. Et après, l'eau est utilisée sur la période avril, fin septembre, pour l'irrigation des cultures.
Pour le maire de La Motte-Servolex, Luc Berthoux, il y avait urgence à développer ce genre de solution sur le territoire.
Depuis 2003, sur une quinzaine d'années, on a perdu l'équivalent d'une année et demie de pluviométrie.
Et des retenues comme celle-là permettent aussi de changer les pratiques.
Sinon, les agriculteurs puisaient dans le réseau d'eau potable, ce qui n'est pas très compréhensible en 2022.
Voilà, et du côté de François Routin et des agriculteurs, cette retenue d'eau présente aussi plus de sécurité que le réseau classique d'eau potable.
En période de sèche, on a eu une année ou deux où je dirais que l'utilisation était un peu tendue, c'est-à-dire que le service des eaux nous donnait des créneaux horaires où on avait le droit d'arroser.
Deux autres projets de retenue collinaire sont dans les cartons du côté du massif de l'Épine, un autre sur la Motte-Servolex et le second sur la commune de Saint-Sulpice.
Baptiste Madinier, France Bleu Pays de Savoie, 6 départements du Nord-Ouest sont en alerte orange en raison des risques d'orages, dont celui de la Sarthe, où nous sommes avec vous Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jérôme.
La Sarthe, Le Mans, le prestigieux circuit accueille cet après-midi la manche française du championnat du monde de MotoGP. 100 000 spectateurs attendus pour voir notamment les stars françaises. Quartararo et Zarco, départ dans un peu plus de 40 minutes. L'ambiance doit commencer à monter autour de vous, Guillaume.
Et même un peu plus que 100 000, Johan Zarco qui s'élancera en 9e place, Fabio Quartararo sur la 2e ligne en 4e position face à moi, des tribunes remplies de ce fameux numéro 20 que porte le jeune pilote niçois champion du monde en titre, qui sera soutenu par plus, c'est d'officiel, 115 000 spectateurs tout autour des 4 km 185 du mythique circuit Bugatti, record d'affluence battu, une édition qui pourrait entrer encore un peu plus dans les annales pour deux raisons supplémentaires. Si Quartararo ou Zarco remporte ce Grand Prix, jamais un Français n'y est parvenu. L'affluence, la victoire d'un Français peut-être, mais attention, un troisième élément moins souriant pourrait aussi graver cette édition 2022 dans la mémoire des fans de vitesse, c'est la météo. Mmh. La Sarthe fait partie des départements placés en alerte orange aux orages, avec du vent à 100 km/h en rafale, de la grêle. La course pourrait être interrompue avant la fin, aux alentours de 14h45, mais le retour des spectateurs installés depuis 3 jours, sous la tente, peut-être dans la boue, pour certains, risque d'être malheureusement mémorable.
Voilà, des parapluies au Mans cet après-midi. Merci à vous Guillaume Batin, en direct du circuit Bugatti. Là, c'est dans une place forte du foot français que deux clubs de rugby s'expliquent cet après-midi. Racing 92 La Rochelle, deuxième demi-finale de la Coupe d'Europe, coup d'envoi à 16h. Pour refermer ce journal, donnons la parole à un homme qui n'a cessé de raconter tout au long de sa vie l'horreur qu'il a vue et qu'il a vécue. Robert Hébras, dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane, et ce week-end présent au Salon du Livre de Limoges. Il est venu y présenter son dernier livre, Avant que ma voix ne s'éteigne. Robert Hébras, qui a 96 ans, a décidé de se retirer, de prendre sa retraite. C'est donc sa dernière rencontre avec ses lecteurs, suivie par Anaïs Martin-Covy.
Assis auprès de sa petite fille, Robert Hébras profite de son dernier salon du livre. Il souhaitait que ce soit Limoges.
Mais parce que c'est mon pays quand même. C'est très important pour la mémoire. C'est seulement le papier qui la fera connaître. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est difficile. C'est le dernier salon du livre, à mon âge. Il faut quand même savoir s'arrêter.
Au Viennois de naissance, Jean-Claude est venu avec sa mère pour rencontrer le dernier témoin d'Oradour.
C'est important de se souvenir malheureusement ce qu'est l'horreur, de manière à essayer de faire que ça ne se reproduise pas. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais entendre l'histoire par ceux qui l'ont vécu, dramatiquement, c'est important.
Pour Marie, on perd un témoin important de l'histoire, alors il faut continuer d'en parler.
Oui, il faut parler d'Oradour. Que la mémoire demeure pour notre futur, pour nos enfants et petits-enfants.
Écrire avant que sa voix ne s'éteigne, c'est aussi pour laisser une trace aux nouvelles générations, selon Robert Hébras.
Les jeunes sont attentifs à la mémoire. Ils s'intéressent, je vais plus loin, ils s'intéressent de plus en plus.
Robert Hébras tire sa révérence, mais pas son témoignage à retrouver dans ses 3 livres.
Anaïs Martin-Covy, France Bleu Limousin, ce salon Lire à Limoges se tient jusqu'à ce soir, le temps.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Plus calme à l'est qu'à l'ouest, le temps va tourner à l'orage en cours de journée entre la façade atlantique, l'Occitanie, le massif central, le centre, Val-de-Loire, la Normandie et le bassin parisien. Six départements dans la zone Sarthe-Normandie sont placés en vigilance orange en raison des orages ponctuellement plus forts avec grêle et violentes rafales. Ce soir et la nuit prochaine, l'activité orageuse en déclin va quitter les régions de l'ouest et se diriger progressivement vers les frontières du nord et de l'est. Et puis, à noter que cet après-midi, le développement d'averses et de coups de tonnerre est possible sur le relief des Alpes. Les températures, avant de baisser un peu demain, seront très élevées cet après-midi, entre 28 et 31 degrés en général. L'air va rester plus respirable sur les côtes, notamment près de la Manche et de la Méditerranée. Des températures qui vont nettement repartir à la hausse à partir de mardi.
Jean-Michel Golinski, Météo France.